Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Pascal Masirika.
Les titres de l'actualité, l'insécurité continue de gangréner actuellement l'est de la RDC où la situation volatile requiert des efforts continus des protections des civils. Annonce faite ce jeudi par la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, dans un rapport présenté au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Nous serons également au sud Kivu où la pluie diluvienne qui s'est abattue cette nuit sur la ville d'Uvira a inondé les quartiers Kalimabenge, Kasenga et Muramvya. De nombreux sinistrés appellent à l'aide. Notre invité, c'est le chargé de communication du système de gestion des incidents dans la province de la Tchopo. Léon Trésor Osono affirme que les déplacés internes du conflit entre les Mbole et les Lingola, hébergés dans les sites de Konga Konga, vivent actuellement dans des conditions extrêmement difficiles. Madame, messieurs, bonsoir. L'insécurité continue de gangréner l'est de la RDC. La situation demeure volatile actuellement et requiert des efforts continus de protection des civils. Telle est la situation de la RDC présentée ce jeudi au Conseil de sécurité des Nations Unies par la chef de la MONUSCO. Madame Bintou Keïta a indiqué que la crise du M23 continue de nourrir la frustration et la colère de la population et d'alimenter des tensions entre la RDC et le Rwanda. Il souligne la nécessité des efforts engagés par la mission onusienne pour protéger les civils contre les groupes armés locaux et étrangers. On l'écoute.
Au Nord Kivu, la MONUSCO a continué de dissuader les attaques des ADF entre Beni, Erigenti et Bouanassoura. Dans la zone sud de la province, le M23 contrôle toujours des points de communication stratégiques dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo et a même réoccupé des zones précédemment libérées et ne remplit aucune des obligations agréées dans la feuille de route de Luanda. Le M23 a notamment bloqué les missions de la MONUSCO à Rumangabo, dans le territoire de Rutshuru, destiné à préparer le site identifié pour son pré-cantonnement. Je déplore cette obstruction et renouvelle mon appel au M23 à déposer les armes et à se retirer sans délai des territoires occupés et aux signataires de la feuille de route de Luanda d'appuyer pleinement ce processus. En Ituri, l'insécurité est toujours à un niveau dramatique, alimentée principalement par les milices Codeco, Zahir et le groupe ADF. Djougou et Irumu y sont les principaux foyers d'insécurité. La MONUSCO y a repoussé de multiples attaques contre les civils. La coordination des opérations contre les groupes armés a aussi été renforcée avec la mise en service en juillet dernier du nouveau centre conjoint d'opérations et de coordination de la MONUSCO et des FRDC à Bunia. Au sud Kivu, malgré des progrès notables, des poches d'insécurité persistent. La situation sécuritaire de la province continue de nécessiter la protection physique par la MONUSCO de plus de 2000 personnes déplacées à Mikenge dans le territoire de Mwenga.
Pour sa part, le représentant de la France à l'ONU a appelé aujourd'hui le Rwanda à cesser de soutenir les rebelles du M23 pour déstabiliser l'est de la RDC. Nicolas Desrivières invite par conséquent ces groupes terroristes au cantonnement. Il a également interpellé certains éléments des FRDC qui soutiennent les groupes armés à mettre fin à cette pratique. Écoutez le diplomate français.
Les responsabilités de ceux qui alimentent la guerre et l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo doivent être engagées. La France reste préoccupée par l'accroissement des tensions à l'est de la RDC. Elle condamne le maintien du M23 sur les positions qu'il a conquises à l'est de la RDC et appelle le groupe à s'en retirer et à prendre part au processus de cantonnement. La France est préoccupée par le soutien militaire du Rwanda au M23 et par la présence persistante de soldats rwandais sur le territoire congolais. Ce soutien et cette présence que nous condamnons doivent cesser. De la même manière, le soutien apporté par certains membres des forces armées congolaises à des groupes armés tels que les FDLR, attesté par le groupe d'experts et que nous condamnons également, doit prendre fin. Des engagements ont été pris dans le cadre des processus régionaux de Luanda et de Nairobi. Ils doivent être mis en œuvre sans délai. La France condamne les multiples exactions commises par les groupes armés. Les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ne peuvent rester impunies. Nous ne pouvons pas non plus accepter que le cessez-le-feu entré en vigueur en mars dernier soit mis en péril. C'est pourquoi, conjointement avec les États-Unis et le Royaume-Uni, nous avons hier proposé la désignation, dans le cadre du régime de sanctions RDC, de deux responsables militaires du M23 et des FDLR. La France appelle par ailleurs à traduire en justice les auteurs de ces crimes. La décision du procureur de la Cour pénale internationale d'examiner les faits commis au Nord-Kivu en réponse à la demande des autorités de RDC est un signal important pour la lutte contre l'impunité. Les violences, d'où qu'elles viennent, doivent plus que jamais être proscrites.
C'était un dossier préparé pour nous par Grace Hamzati. Au Nord-Kivu, pendant ces temps, la force régionale de l'EAC s'est interposée hier mercredi après-midi entre les FRDC et les rebelles du M23 autour de la colline de Kanyamaoro dans le territoire de Nyiragongo. Le porte-parole du gouverneur affirme à Radio Okapi que les FRDC voulaient empêcher les rebelles du M23 à réoccuper cette colline. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike Kayiko dénonce la réoccupation par le M23 de plusieurs positions qu'ils avaient déjà de garnir dans les territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. On l'écoute.
Ce mercredi 27 septembre 2023, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de s'installer encore sur la crête Kanyamaoro à Kibumba, allant jusqu'à placer le contingent kenyan de l'EAC derrière ces lignes. Il a fallu la pression des forces armées de la République démocratique du Congo et la dissuasion de la force régionale de l'EAC pour que ces derniers se retirent. Depuis l'adresse au cours de laquelle Son Excellence Monsieur le Président de la République a réaffirmé le refus de tout dialogue direct, les terroristes du M23-RDR ont réoccupé des localités jadis abandonnées dans le cadre du cessez-le-feu. De ce fait, les forces armées considèrent cet acte comme une énième provocation et appellent la communauté nationale et internationale de tirer toutes les conséquences irrelatives. Toutefois, forces armées de la République démocratique du coup, informe qu'elles sont prêtes et déterminées à parer à toute éventualité.
On enchaîne avec le Sud Kivu où la pluie diluvienne qui s'est abattue cette nuit sur la ville d'Uvira a inondé les quartiers Kalimabenge, Kasenga et Muramvia. C'est ce que nous raconte Fiston Gomamayabala.
Les populations habitant le long de la rivière Kalimabenge disent n'avoir pas fermé l'œil. Depuis 21 heures, ils ont été alertés par des cris de détresse de jeunes vigiles qui patrouillaient autour du pont qui relie Kalimabenge et Kilibula, deux quartiers vers lesquels les eaux se sont déversées avant de se jeter sur le lac Tanganyika. Sur l'avenue de la plage d'Or, on pouvait observer ce matin des objets de ménage flotter sur les eaux, d'autres enfouis dans la boue. La même scène macabre est observée à Muramvia, un quartier de Kasenga situé au bord de la rivière Kavimvira, où un petit stade de football est inondé d'eau ainsi que plusieurs habitations se trouvant à côté. On est encore au début de la saison pluvieuse, où la rivière Kalimabenge n'est pas encore entrée dans sa phase la plus meurtrière, lui reconnue, où des grosses pierres s'entrechoquent dans les eaux boueuses. L'année dernière, les membres du Conseil urbain de sécurité avaient recommandé aux habitants qui avaient construit anarchiquement sur le passage des eaux d'évacuer de ces sites impropres. Les habitants de leur côté avaient répliqué en sollicitant quelques mesures, dont l'écurage des rivières et la plantation des arbres anti-érosifs le long de leurs parcelles. D'Uvira, Fistongo Momayabala, Radio Okapi.
Valider les modèles d'exploitation artisanale des minerais stratégiques, notamment le cobalt, conforme aux lois nationales, aux standards internationaux et aux normes responsables et éthiques. C'est en tout cas l'un des objectifs de l'atelier tenu ce jeudi à Roméo Golf, ici à Kinshasa, organisé par l'entreprise générale du cobalt. L'atelier d'aujourd'hui à Kinshasa a regroupé autour de la table les institutions et services gouvernementaux, les agences des Nations Unies, les partenaires internationaux, les institutions de Bretton Woods, les chambres des mines et les sociétés minières. Explication de Jacques-Yves Moulima.
Il est question d'humaniser et formaliser la production minière artisanale en RDC des minéraux stratégiques, particulièrement le cobalt. Mais pourquoi ? La ministre des Mines, Mme Antoinette Samba, explique.
Notre pays fait face depuis un certain temps à des menaces de bannissement de son cobalt à l'exportation vers le marché international.
Pour Damien Mama, représentant de PNUD, l'important est d'évoluer vers une exploitation minière artisanale durable. C'est donc l'essentiel.
Pour nous, il est essentiel d'évoluer vers une exploitation minière avec des mesures de sécurité appropriées, des équipements adaptés et une transparence des prix afin que les artisans miniers bénéficient de meilleures conditions de travail.
Et le Premier ministre Jean-Michel Tsamalou Kondé qui a lancé les travaux de spécifier.
La détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo à poursuivre résolument l'indispensable processus d'assainissement, de réduire substantiellement les flux frauduleux échappant aux caisses de l'État en canalisant l'exploitation de toutes nos ressources minérales, artisanales, stratégiques.
Plusieurs recommandations sanctionneront ces travaux.
Et puis, plusieurs stations-service de la ville de Lubumbashi sont actuellement fermées. Les automobilistes font la queue devant les rares stations qui sont encore opérationnelles. Les pétroliers de la ville parlent d'une rupture des stocks. Pour leur part, les automobilistes redoutent une éventuelle révision à la hausse de la structure de prix. Radio Okapi Lubumbashi, Jean Gandou Kabongo.
Les premiers à déchanter sont ceux qui ont cherché à s'approvisionner en carburant ce matin. Une fois arrivés devant les stations-service, ils ont été surpris de constater qu'aucun agent n'était présent ou encore que l'accès était barricadé. C'est ainsi qu'on a vu les automobilistes courir dans tous les sens, espérant trouver une solution, mais la réalité était presque la même. À notre passage, à l'angle des avenues Uro et Kapenda dans la commune de Lubumbashi, une longue file de véhicules était observée devant la station-service avant que la distribution ne soit interrompue. Raison avancée, des stocks. Les rares autres stations qui sont opérationnelles voient la file des véhicules continuer à s'allonger. Du côté des pétroliers, on indique qu'il est simplement question de la rupture des stocks chez la plupart d'entre eux. Au fur et à mesure que les camions citernes arrivent avec du carburant à Lubumbashi, la situation pourra se normaliser. Toutefois, ils regrettent que le gouvernement n'honore toujours pas sa promesse de payer le manque à gagner qu'ils enregistrent. En outre, sur le marché international, il y a une augmentation du prix de baril de pétrole et le gouvernement avait déjà été prévenu. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et dans la Tchopo, les déplacés du conflit entre les Mbole et les Lengola se trouvant dans les sites de Konga Konga, à la paroisse Sainte-Marthe et au camp Lukusa, manquent actuellement de nourriture. Conséquence, certains enfants atteints de malnutrition sévère commencent à mourir. Cette situation a été évoquée hier mercredi entre le ministre provincial de la Santé et les partenaires des organisations humanitaires basées à Kisangani. Les comptes rendus de Jacques Moukonkolé.
Les déplacés du conflit Mbole-Lengola vivent dans une situation inconfortable. Dans leur site, ils ne mangent presque plus. Cette carence de nourriture engendre des conséquences néfastes dans ces milieux, comme l'explique le chargé de communication du système de gestion des incidents à la Tchopo, Léon Trésor Osono.
Aujourd'hui, ces personnes déplacées internes vont dans la rue au niveau de maison pour quémander ce qui n'est pas bon. Il y a des enfants qui sont décédés dessus de la malnutrition. Il y a aussi changement de comportement. Vous savez, une femme qui n'est pas nourrie, une femme qui n'est pas prise en charge, il peut y avoir de prostitution au niveau du site.
C'est pour cela que la ministre provinciale des Affaires humanitaires sollicite l'appui des partenaires techniques et financiers du gouvernement. En réaction, au nom de ses collègues, le chef du sous-bureau de l'UNICEF Kisangani précise que les interventions se font de façon coordonnée. Mokhtar Han.
L'OMS par exemple a mis en place les tentes et la distribution des médicaments et les autres organisations sont également en train de se positionner au fur et à mesure parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de déplacés qui sont touchés par la malnutrition. Je pense qu'on va essayer de discuter avec les autres partenaires, voir qu'est-ce qui pourrait être fait dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui n'est pas dans le mandat de l'UNICEF.
Qu'à cela ne tienne, Mokhtar Khan précise que pour les déplacés, l'évaluation a été faite, un plan de réponse existe déjà et les agences sont en train de se positionner. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, une tentative de coup d'État a été déjouée hier, mercredi, selon le gouvernement. Ce jeudi, le parquet militaire dit avoir ouvert une enquête circonstanciée sur la base des dénonciations dignes de foi faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État. Conséquence, 4 officiers ont été interpellés aujourd'hui et 2 autres sont activement recherchés. 4 Nigérians ont été condamnés hier en appel à des peines de 8 à 18 ans de prison ferme par la Cour cour d'assises de Val-de-Marne en France. Ils sont accusés de proxénétisme, aggravé en bande organisée et traite d'êtres humains avec pour victimes de jeunes nigérianes qui ont été forcées à se prostituer. Et puis les autorités de l'Est de la Libye viennent d'annoncer aujourd'hui la création d'un fonds pour la reconstruction de Derna, cette ville qui a été dévastée récemment par des inondations meurtrières et où une conférence aura lieu le 10 octobre prochain pour préparer les premiers projets de restauration de l'entité.
L'invité.
Notre invité, c'est le chargé de communication du système de gestion des incidents dans la province de la Tchopo. Léon Trésor Ossono affirme que les déplacés internes du conflit Mbolé-Lengola, hébergés actuellement dans les sites de Konga-Konga, vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'entretient avec Jacques Mokonkolé.
Léon Trésor Ossono Imboroka, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Les déplacés des sites de Konga-Konga et de Sainte-Marthe dans la ville de Kisangani se trouvent dans une situation très critique. Qu'est-ce qui leur fait défaut?
Tout d'abord, je tiens à vous remercier. Tout à l'heure, Madame la ministre provinciale en charge de la santé publique, hygiène et prévention, vient de tenir une réunion avec tous les partenaires et du côté santé et du côté des actions humanitaires pour essayer de trouver des solutions. Vous-même, vous l'avez dit, qu'il y a des situations pas bonnes au niveau de sites de personnes déplacées internes, notamment au niveau de Konga-Konga, au niveau de Sainte-Marthe et également au niveau de Kanlukusa, qui font état de situations qui n'arrangent pas la province, qui n'arrangent pas le ministère de la Santé. À ce sens que ces personnes-là, aujourd'hui, ils sont délaissés. Quand je dis qu'ils sont délaissés, ce n'est pas par le gouvernement. Là, on fait allusion aux partenaires, on fait allusion effectivement au gouvernement central. Comme vous le savez, la province avait été élevée au grade 3. Parmi les 6 provinces qui ont été élevé au grade 3, il y a également la Tchopo.
Et sous-entend le grade 3?
C'est-à-dire que le niveau d'intervention de partenaires, n'est-ce pas, humanitaire et sanitaire, est placé en mode urgence. C'est-à-dire que s'il y a des situations à laquelle on doit beaucoup plus s'y atteler, ce sont des situations, notamment celles qui se passent au niveau de la Tchopo.
Comment expliquez-vous cela au moment où nous avons un gouvernement provincial qui est censé les prendre en charge?
Oui, le gouvernement provincial prenait en charge ces personnes déplacées internes et continue à les prendre en charge. Mais comme vous le savez, le gouvernement provincial n'a pas que la prise en charge de personnes déplacées internes. Il y a aussi les côtés sécuritaires où le gouvernement provincial doit intervenir.
Y a-t-il des conséquences déjà palpables au niveau des sites des déplacés? Si oui, lesquelles?
Effectivement, il y a des conséquences. Nous enregistrons des morts. Au niveau du site Sainte-Marthe-Lubunga au Kanlukusa, il y a des mal des enfants qui sont décédés des suites de la malnutrition au niveau de ces sites. Et donc, nous sommes en train d'y travailler, mais seuls nous ne pourrons pas y arriver si le gouvernement de la République n'intervient pas, si les partenaires techniques et financiers n'interviennent pas. Et donc c'est pour cette raison que la ministre a convoqué le partenaire. Il y a des plaidoyers qui sont menés au niveau de Kinshasa par Madame la gouverneure de province, l'excellence Madame Nkomba Sabangu, par la ministre. Je crois qu'au courant de cette année, la ministre a été à Kinshasa pour mener des plaidoyers auprès du ministre des Actions humanitaires. Nous attendons toujours la suite.
Donc on peut dire que le gouvernement provincial est maintenant essoufflé. Il faudra une assistance, un appui qui viendrait de l'extérieur, c'est-à-dire du gouvernement, des partenaires.
Le gouvernement provincial n'est pas essoufflé. Si le gouvernement provincial était essoufflé, il n'allait pas continuer à poser des actes. Mais seulement que nous vous disons que nous n'avons pas seulement... Donc, en fait, le gouvernement provincial n'a pas que la prise en charge de ces personnes déplacées internes. Aujourd'hui, ces personnes déplacées internes, avec toutes les conséquences qu'il y a, vont dans la rue au niveau de maison pour quémander, ce qui n'est pas bon. Et je venais de dire tout à l'heure qu'il y a des enfants qui sont décédés des suites la malnutrition. Ces enfants, dès lors qu'ils sont arrivés au niveau du site des Konga-Konga, de Sainte-Marthe et des Lukusa, n'étaient pas dans un état de malnutrition. Dès lors qu'ils se sont rendus au niveau du site, avec tout ce qu'il y a en termes de conséquences, qui ont perdu la vie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que nous pouvons appeler en termes de changement de comportement. Vous savez, une femme qui n'est pas nourrie, une femme qui n'est pas prise en charge, avec toutes les conséquences qu'on puisse observer des violences sexuelles basées sur les gens, qu'il peut y avoir de prostitution au niveau du site.
Vous sollicitez l'intervention des partenaires du gouvernement, en l'occurrence c'est l'UNICEF et l'OMS qui sont avec nous, mais ils ne peuvent agir qu'en vertu de leur mandat respectif. Comment réagissez-vous?
Oui, effectivement, nous savons que UNICEF intervient à son mandat, et OMS a également son mandat, mais nous leur avons demandé, en plus de plaidoyer que nous, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, sommes en train de mener, nous leur avons demandé de multiplier les contacts. Nous avons réussi, il y a 2 ou 3 mois, la délégation d'OCHA qui est venue évaluer les besoins, mais depuis que OCHA est parti, on ne voit pas les retombées. Et c'est donc pour cette raison raison que nous avons appelé le partenaire dans le cadre de leur cluster qui puisse, n'est-ce pas, pousser loin le plaidoyer pour que nous puissions bénéficier effectivement de l'assistance. Je crois que vous-même vous l'avez dit, la TIOPO a été élevée au grade 3. Nous assistons à une sorte, permettez-moi de le dire, une sorte d'injustice. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le site Kivu, nous avons le Nord Kivu, l'Ituri et la TIOPO. Mais nous avons comme l'impression que les fonds sont plus alloués du côté de la partie Est qu'au niveau de la TIOPO. Est-ce qu'il faudrait attendre, compter des milliers de morts pour que le gouvernement de la République intervienne, pour que le partenaire tant techniques et financiers interviennent? Non. Je pense que pendant qu'il est encore temps, il est souhaitable à ce que le partenaire et le gouvernement de la République viennent en aide, bien sûr, au gouvernement provincial.
Léon Trésor Ossono, merci.
C'est à moi de vous remercier.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chargé de communication du système de gestion des incidents dans la province de la Tchopo. Léon Trésor Ossono a été interviewé à Kisangani par Jacques Mukongole. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Noëlla Luzitu Kabambi qui m'a accompagné.